Le Mois Market
avec Candy Crush.
C'est tellement bien le Mois Market. Ça m'a inspiré un nouveau spectacle. Je le ferais bien lire, mais mon imprimante est en panne sèche.
Pas de problème, Michel. Jusqu'au 8 novembre chez Carrefour Market, il y a 30% de remise immédiate pour l'achat de deux cartouches d'encre HP identiques.
Mon spectacle, c'est une histoire d'amour.
Oh, je pourrais jouer sur scène avec vous.
Bah oui, vous donnerez la réplique à mon imprimante.
Ah.
Bien joué le Mois Market
avec Candy Crush.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand a lu la biographie de la dernière impératrice de Chine. Bonjour Franck.
Bonjour Sophie, bonjour à tous. L'ouvrage de Zhong Shang sur l'impératrice Cixi est passionnant. Pour nous en parler, j'ai convié à nous rejoindre l'un des meilleurs spécialistes français de la Chine, José Fraîche.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question d'Anne Florent sur les origines du repassage.
Question à laquelle je n'aurais pas songé, je dois vous le dire, mais qui ne manque pas d'intérêt. Pour le moment, nous partons pour le pays des soieries brodées de dragons.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Une simple concubine a-t-elle pu devenir impératrice de la Chine impériale du 19e siècle? Vous imaginez, c'est près d'un tiers de la population mondiale, cette Chine-là. Eh bien, c'est ce que nous raconte, entre mille péripéties, Jun Shang, dans le très bel ouvrage qu'elle fait paraître chez Lattès et qui s'appelle donc L'impératrice. Elle dit Cixi, vous me permettrez de l'appeler à la française Cixi. C'est en 1852 que cette jeune fille de 17 ans est devenue l'une des concubines de l'empereur de l'époque, qui s'appelait Xian Feng. Il faut savoir qu'en Chine, un empereur a le droit de s'unir à une impératrice, bien sûr, mais à autant de concubines qu'il le souhaite. Heureux homme, Xian Feng aura jusqu'à 19 concubines en même temps. Comme toutes les candidates au concubinat, l'adolescente est manchoue. Ça, c'est très important. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure avec José Fraîche. Elle est manchoue. Elle appartient à une famille de haut rang puisque son père était chef de section au ministère des fonctionnaires, de la fonction publique, si l'on peut dire. Une famille qui descend d'une des plus anciennes dynasties manchoues et qui a eu l'habitude depuis des générations de servir le gouvernement. En très peu de temps, cette concubine qui au début n'a même pas encore de prénom officiel, va devenir seconde épouse, puis s'emparer du pouvoir, puis devenir à 26 ans l'impératrice douairière Cixi. Cixi, ce qui veut dire, c'est un nom honorifique, hein, qui veut dire bienveillante et gaie. Était-elle bienveillante cette femme? Et était-elle aussi joyeuse qu'on le dit? C'est un autre aspect. J'en suis pas tout à fait certain. Cixi a donc pris le pouvoir au cours d'un coup d'État. Un coup d'État tout à fait incroyable et que je vais vous raconter maintenant. On est à l'été 1861, au mois d'août. L'empereur Xian Feng, donc de la dynastie des Qing, meurt en exil à l'âge de 30 ans. Il est exilé en Mandchourie à ce moment-là parce que il faut dire que la Chine de l'époque, le pouvoir impérial, est aux prises avec les puissances coloniales. Ça aussi, je tâcherai d'y venir tout à l'heure avec José Fraîche. Qui est cet empereur Xian Feng? On l'a surnommé le dragon boiteux à la suite d'une chute de cheval. Il a toujours été en mauvaise santé depuis sa naissance prématurée et ses 11 années de règne se résument à deux mots, débauche et agitation. Agitation parce que les derniers mois ont été ceux d'une guerre de l'opium terrible, une guerre de 4 ans contre la France et le Royaume-Uni, guerre déclenchée par les Occidentaux eux-mêmes. Il faut savoir que Pékin a été attaqué, une partie de la ville a été détruite par les armées franco-anglaises, et c'est le moment où les franco-anglais ont dévasté littéralement le palais d'été, le terrible sac du palais d'été. C'est ce qui a obligé l'empereur à s'exiler en Mandchourie, où il finit donc par mourir. Et le nouvel empereur, qui s'appelle Zaichun, est tout jeune, il n'a que 4 ans. Alors certes, il occupe le trône, mais vous imaginez bien qu'à, mettons qu'il a 5 ans, il a tout juste 5 ans, il ne peut pas encore avoir de pouvoir politique. Les fonctions politiques sont dans les mains d'un conseil de régence qui est composé de 8 princes et ministres. Ce sont les personnes les plus intimes de l'empereur défunt. Ce sont des hommes sans pitié, avides de pouvoir. Imaginez ce que peut être la Chine impériale de l'époque. Quant à la mère de l'héritier, eh bien, c'est une concubine de l'ancien empereur Tianfeng. Elle a 25 ans et voilà ce que Jun Chang nous dit dans sa biographie de Cixi. Elle n'était pas d'une grande beauté, mais elle avait un maintien exquis. Elle ne dépassait pas le 1,50 m. En revanche, sa robe, ses chaussures et sa coiffure la grandissaient. Elle se tenait bien droite et se déplaçait avec grâce, même à un pas vif, juché sur ce que d'aucuns qualifiaient des chasses. Elle avait hérité d'une peau admirable et de mains délicates qui resteraient jusque dans ses vieux jours aussi douces que celles d'une jeune fille. Ce qui, chez Cixi, attirait le plus le regard, c'était ses yeux brillants et expressifs. Alors évidemment, pour l'instant, elle n'a aucun titre. Elle est complètement à l'écart, bien que son fils, son tout jeune fils, soit sur le trône. Pour tout vous dire, elle n'est même pas la mère officielle du nouvel empereur, puisque la mère officielle, c'est l'impératrice Zhen, qui a à peu près le même âge qu'elle, hein, elle a 24 ans, qui a le titre d'impératrice douairière. Et vous imaginez, évidemment, que pour la concubine, pour Cixi, c'est très difficile à vivre. Alors, on se dit que les deux femmes vont se livrer une guerre sans merci. Eh bien, en vérité, c'est pas ce qui se passe. Car ces deux femmes, elles sont amies et que, depuis plusieurs années, l'impératrice a littéralement pris la concubine sous son aile. Du coup, une situation est trouvée. C'est une situation qui vient du passé, parce qu'on peut dire que ça n'est pas la première fois que ça a lieu dans l'histoire de la Chine. Au 17e, au moment de l'accession au trône d'un empereur, sa mère, simple concubine, avait reçu déjà le titre d'impératrice douairière et il y avait eu à ce moment-là deux impératrices en même temps. Eh bien, c'est ce qui va se passer là. On va donner le titre d'impératrice douairière à Cixi, ce qui veut dire qu'il y a maintenant deux impératrices, Zhen et Cixi. Zhen qui va hériter du titre de bienveillante et sereine et Cixi qui est donc la bienveillante et joyeuse. Une joyeuse, une sereine. Sont-elles si joyeuses et si sereines? Je vous le disais, ça n'est pas certain, puisqu'elles sont en train, en vérité, de fomenter un coup d'État. Elles vont essayer d'arracher le pouvoir à ces 8 hommes du Conseil des Régents. C'est très grave, cette affaire. Si elles échouent, elles se verront appliquer le célèbre Ling Shi, c'est-à-dire la mort des 1000 coupures, un châtiment public épouvantable, puisqu'il consiste à vous couper vivant en petits morceaux. Thank you.
extrait de la bande originale du film Le Dernier Empereur, un film réalisé par Bernardo Bertolucci et sorti en 1987. Restez avec nous pour ce début d'après-midi sur Europe 1. Dans Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand nous raconte l'histoire de la dernière impératrice de Chine.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, aujourd'hui est consacré à la dernière impératrice de Chine.
Tsui, vous l'aurez compris, veut sauver son fils. Elle veut sauver la dynastie de toutes les violences et de toutes les vicissitudes de ce conseil de régence. Elle va donc fomenter un coup d'État, on pourrait appeler ça un coup d'État de boudoir ou de palais. Tsui et Zen, les deux impératrices, vont comploter l'une et l'autre au-dessus d'un grand réservoir d'eau où elles font semblant de venir examiner leurs reflets. Alors vous savez, pour s'observer dans le miroir d'eau, elles sont obligées de se pencher. Il faut imaginer ces gestes très codifiés, très lents de la Chine ancienne. Elles se penchent l'une vers l'autre et elles se parlent à l'oreille. Tsui a remarqué un détail intéressant, c'est que depuis près de 200 ans, toutes les instructions des empereurs sont promulguées à l'encre écarlate. Sauf que vous imaginez bien qu'à 5 ans, le petit empereur n'est pas capable encore de manier le pinceau, surtout avec cette langue mandarine tellement difficile à écrire. Alors, on a pris l'habitude, lorsque l'on émet un acte au nom du jeune empereur, de signer par un sceau officiel. Or, ce sceau, il a été transmis par l'ancien empereur Tianxiang, il a été transmis aux deux femmes, à l'impératrice Zen et à la concubine devenue impératrice douairière Tsui, qui dispose donc en quelque sorte de la signature impériale, ce qui va leur donner un pouvoir considérable dont elles n'ont pas fini d'user et d'abuser. Elles vont s'efforcer dans un premier temps de s'assurer l'appui du prince Gong. Le prince Gong, c'est le demi-frère de l'empereur défunt. C'est un noble de 27 ans, il faut l'imaginer, il a une tête magnifique et un regard pénétrant, nous dit Zhong Chang, avec ses robes brodées de dragons au fil d'or, son chapeau orné d'un bouton coloré indiquant son statut et d'une plume maintenue en place par une broche de jade, il offrait la parfaite image d'un prince de haut rang. Eh bien, on peut dire qu'avec lui, les deux femmes ont un allié de poids contre les régents du conseil. Il ne reste plus à Tsui qu'à pousser les régents à la faute et pour que le prince Gong accepte de se débarrasser de tous ces hommes. Les deux femmes vont convoquer les régents avec le jeune empereur dans leurs bras. Elles se le passent, le jeune Jai Shun, vous voyez, elles se le passent comme ça de l'une à l'autre. Les régents vont s'énerver au cours de la réunion. Ils crient devant l'empereur et donc le petit empereur se met à pleurer. Ben oui, c'est un enfant hein, néanmoins. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est un crime de lèse-majesté. C'est une faute grave. À ce moment-là, Tsui rédige un projet dédié au nom de son fils. Elle mentionne l'incident, elle condamne les régents, inutile de vous dire qu'elle a toujours le sceau avec elle, bien entendu. Elle fait beaucoup de fautes d'orthographe et de syntaxe, hein, d'ailleurs, c'est assez étonnant. Elle dit à la fin de l'édit, « Le septième frère aurait-il l'obligeance de le relire pour moi ?» Ce septième frère, vous aurez bien compris que c'est le prince Chun, marié à la sœur de Tsui. Le lendemain, il lui retourne son texte revu et corrigé. C'est ce texte-là qui va congédier les 8 régents et qui va être bien sûr signé du grand sceau impérial. Tsui maintenant veut rejoindre Pékin et le prince Gong avant l'arrivée des régents, 2 mois après le décès de l'empereur Xianfeng. On est en octobre 1861. L'imposante procession de deuil, l'imposante procession qui accompagne le cercueil se met en route le long du trajet du défunt monarque, nous dit la biographe. On répara des ponts et on aplanit ou élargit les routes que l'on couvrit d'ailleurs de terre jaune pour l'occasion, comme chaque fois qu'y passait un empereur. Avant la levée du cercueil, le jeune héritier du trône s'agenouilla auprès de feu son père, le temps de lui dire adieu. La moitié des régents sont là, qui escortent le cercueil sur lequel veille le prince Chun. Les autres accompagnent le jeune empereur qui, de son côté, conformément à l'étiquette de la cour, a pris place auprès de l'impératrice Zen, qui est sa mère officielle, dans une chaise à porteur, au rideau noir, en signe de deuil. Quant à l'impératrice douairière Tsui, elle voyage également en chaise à porteur à rideau noir. Et oui, maintenant, elle bénéficie de ce statut impérial, elle bénéficie de cette extraordinaire primauté au sein de la cour. Tsui arrive à Pékin au bout de 6 jours, c'est-à-dire 4 jours avant la dépouille de son ancien mari, la dépouille de Tianfeng. Ça laisse du temps, ça, pour aller voir le prince Gong, pour lui remettre le fameux édit du coup d'État qui renvoie les 8 régents. Cet édit qui a été, vous l'aurez compris, estampillé des 2 sceaux impériaux de Zhen et de Zhehi. Il faut faire vite maintenant, car les régents vont tout faire pour profiter des funérailles, pour remettre la main sur le sceau dérobé par Zhehi. Le convoi doit être attaqué, le sceau récupéré sur le cadavre de l'impératrice douairière une fois qu'on s'en sera débarrassé. Est-ce que c'est ce qui va avoir lieu ? Vous savez bien que non, puisque elle va régner à partir de ce moment-là et que le coup d'État va réussir. Alors que le cercueil de l'empereur Tianfeng progresse à une allure toujours protocolaire vers Pékin, Zhehi demande au prince Gong d'amener ses soutiens, de leur communiquer l'édit du coup d'État. À ce moment-là, les régents arrivent au palais et ne savent pas encore ce qui les y attend.
Sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film Le Dernier Empereur. Si vous souhaitez commenter l'émission ou poser des questions à Franck Ferrand, même son invité, à propos de la dernière impératrice de Chine, eh bien, vous pouvez le faire de plusieurs façons, sur Twitter avec le hashtag ACDH, sur la page Facebook, au cœur de l'histoire, ou même sur Europe 1.fr, au cœur de l'histoire, une émission connectée. Et Franck Ferrand revient dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1.
Passez un très bel après-midi avec nous sur Europe 1 en écoutant Au cœur de l'histoire, une émission que vous pouvez d'ailleurs retrouver en podcast sur europe1.fr. Franck qui nous raconte cet après-midi la passionnante histoire de Zhehi, c'est la dernière impératrice de Chine.
Lorsque les régents arrivent au palais pour les funérailles de l'ancien empereur, du défunt empereur, il va y avoir une entorse aux règles et aux protocoles de la cour, puisque les 2 femmes qui règnent maintenant, l'impératrice Zhen et l'impératrice Zhehi, convoquent ses responsables politiques au sein même du harem. Et Zhehi demande à ce moment-là à rédiger sur le champ un 2e édit qui ordonne l'arrestation des régents. Ils ne peuvent pas protester car les 2 sceaux, symboles de l'autorité impériale, sont apposés sur l'édit. Le prince Chun est armé d'un autre décret. Il procède à l'arrestation des régents ayant escorté le cercueil et il va lui-même trouver leur chef qui s'appelle Su Chun. Cet homme-là est une sorte de tyran, hein. C'est un fanatique de la lutte anticorruption qui punit les moindres délits, parfois des délits anodins par des châtiments disproportionnés. Vous savez qu'on a le châtiment corporel facile dans la Chine de l'époque. Il a par exemple, ce Su Chun, accusé l'un de ses subordonnés de détournement de fonds et pour cela il l'a menacé de décapitation. Donc quand Chun arrive, il trouve Su Chun au lit avec 2 concubines. Su Chun refuse évidemment le mandat d'arrêt, seulement sa désobéissance à un décret impérial, sans parler des relations sexuelles qu'il vient d'avoir à l'évidence pendant qu'il escortait la dépouille de l'empereur défunt. Tout ça va fournir à Zhehi les raisons amplement suffisantes d'ordonner son exécution. Le prince Gong prend d'abord la tête d'un jury de princes et de dignitaires, chargé de spécifier les crimes commis par chacun des régents, et ça va être un procès retentissant. Un procès très long, il faut vous dire, car les jours passent et les débats s'enlisent. Une fois de plus, Zhehi a un argument de choc. Selon elle, les 8 régents ont falsifié le testament de l'empereur défunt. C'est une accusation assez peu crédible, il faut bien le dire, mais il n'empêche, les 8 régents sont condamnés pour trahison et les sanctions vont être lourdes. Les 3 principaux coupables devraient subir la mort des 1000 coupures. Ce châtiment absolument atroce dont je vous parlais tout à l'heure. Finalement, Zhehi veut bien être gentil, elle allège un peu les condamnations. Donc, Su Chun, le chef, sera décapité. Entre nous soit dit, personne ne le regrette. Il était tellement dur, cet homme-là. Quant aux 2 autres membres les plus influents du conseil des régents, les princes Zheng et Ye, qui sont des cousins de l'empereur défunt, ils sont autorisés à se pendre avec une longue écharpe de soie blanche. On appelle ça l'offrande de la soie, parce qu'on vient jusque dans votre chambre vous apporter l'écharpe avec laquelle vous allez devoir vous pendre vous-même. Vous imaginez comme c'est sympathique. Les autres régents sont simplement chassés de la cour avec absolue interdiction d'y jamais reparaître. 2 mois après la disparition de son mari, on peut donc dire que Tsuhi vient de perpétrer quasiment sans effusion de sang, un véritable coup d'État. Elle n'a tué somme toute que 3 personnes à l'échelle de la Chine, je vous assure que ça n'est pas beaucoup. L'envoyé britannique à Pékin n'en revient même pas. Il me semble à vrai dire singulier que des hommes depuis longtemps au pouvoir, écrit-il, et disposant des fonds de l'État et de sa protection, soient tombés sans la moindre résistance, sans qu'une voix ni une main ne s'élève pour prendre leur défense. Pour autant que je puisse l'affirmer, l'opinion publique est unanime à condamner Su Shun et ses collègues et à approuver les châtiments qui les attendent. Le futur réformateur et militaire Zheng Guofan note pour sa part dans son journal « Je suis ébahi par ce qu'a résolument et sagement accompli l'impératrice douairière, alors même que de grands souverains du passé n'avaient pas réussi à en faire autant. L'admiration et le respect qu'elle m'inspire m'émeuvent au plus haut point. » Ah, on le comprend, Tsuhi aura désormais des partisans, elle aura même des fidèles jusqu'au bout. Elle fait, dans un premier temps, elle songe à nommer le prince Gong régent, ça paraît évident, mais au dernier moment, elle change d'avis, elle décerne à Gong le titre de conseiller de la couronne et le 28 novembre 1861, veille du 26e anniversaire de la demoiselle, ou de la dame devrais-je dire, sous un ciel couvert et une légère bruine, une proclamation adressée à l'ensemble de l'Empire annonce, je cite, « à compter d'aujourd'hui ». Les 2 impératrices douairières s'occuperont personnellement de toutes les affaires de l'État et transmettront leurs ordres aux grands conseillers et aux membres du Grand Conseil en vue de leur exécution. Les décrets continueront d'être promulgués au nom de l'empereur. Mais quelle autorité, mais quelle maîtrise, et c'est presque une voie de conséquence, quelle réussite pour cette jeune femme qui vient de prendre tout simplement la tête du plus grand empire du monde. José Fraîche.
Bonjour.
Vous êtes un grand spécialiste de la Chine et avec vous, nous allons revenir sur l'ensemble de la vie de cette impératrice Tsuhi.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Avec Franck Ferrand qui reçoit cet après-midi José Fraîche, écrivain spécialiste de la Chine, auteur du Dictionnaire amoureux de la Chine, paru chez Plon.
Il faut peut-être, avant toute chose, que nous réglions la question du nom même de l'impératrice José Fraîche. Comment l'appelle-t-on ? Sur la couverture de l'ouvrage de Zhong Chang, on voit impératrice Cixi, C-I-X-I. On écrit, nous, traditionnellement en France, Tsuhi, avec un trait d'union, et ça se prononce Tsuhi, c'est ça ?
Tsuhi.
Tsuhi.
Oui. Et donc, c'est une, évidemment son nom de règne, puisque c'est une Manchoue, qui, comme vous l'avez dit, a régné très longtemps. Et il faut que nos auditeurs le sachent, ce n'est pas la première femme à avoir été impératrice en Chine. À la fin du IXe siècle, sous la dynastie des Tang, oui, régna une dame tout à fait extraordinaire, qui fut d'ailleurs impératrice et non pas douairière.
Oui, parce que Tsuhi est impératrice douairière.
Douairière. Et donc, qui s'appelle Wu Zetian. Et alors, Wu Zetian, elle a trouvé un subterfuge tout à fait incroyable pour devenir impératrice, parce que dans les règles de succession au trône en Chine, il n'y a pas de place pour les femmes, c'est qu'elle a laissé croire qu'elle était une réincarnation d'un bodhisattva et que par conséquent, elle venait sauver la Chine. Elle a tué ses enfants. C'est une espèce de messaline qui a une vie absolument incroyable. Et elle a régné un peu plus de 30 ans comme empereur de Chine.
On a l'impression d'un opéra de Puccini quand vous le racontez, c'est tout à fait extraordinaire. Oui. Alors, cette figure extraordinaire de Tsuhi est d'autant plus remarquable qu'elle est la dernière impératrice. Enfin, il y a juste après elle, il y a cet enfant dont Bertolucci nous a raconté la vie. Mais voilà, c'est la toute fin de ce qui est une grande dynastie. Revenons peut-être sur cette dynastie Mandchou.
Tout à fait. Donc les Mandchous, ce sont des tribus qui viennent du nord, de la Mandchourie. Donc ce ne sont pas des Han, sont des guerriers.
C'est l'ethnie principale.
Les Han, 95% de la population chinoise est Han. Et d'une façon générale, à part un intermède qui est l'intermède mongol des Yuan.
À l'époque de Marco Polo,
le successeur de Genghis Khan, qui devient empereur de Chine, et cette dynastie va régner 2 siècles environ, et ensuite elle va être remplacée par les Ming, qui vont régner longtemps, et les Ming eux-mêmes seront chassés de Chine par les Qing, c'est-à-dire les Mandchous, cette dynastie au XVIIe siècle. Et à ce moment-là, les Mandchous vont tout faire pour se faire pardonner de ne pas être chinois, de ne pas être des Han. Et donc, ils vont redoubler de zèle. En particulier, ce sont les empereurs qui vont faire établir des dictionnaires de la langue chinoise. Ils vont réaménager entièrement la cité interdite pour la rendre encore plus magnifique. Donc ils vont comme ça chausser les bottes.
J'allais dire, c'est assez extraordinaire. On a l'impression qu'ils sont plus royalistes que le roi, d'une certaine manière.
Tout à fait, car c'est la seule façon pour eux de pouvoir régner, vu que toute l'administration, toutes les armées sont dirigées par des Han, et également par des mandarins. Mandarins qui considèrent que les Mandchous sont un peu des sauvages, des barbares.
Les nouveaux riches.
Qui crachent par terre et se lavent pas, contrairement aux empereurs de la dynastie des Ming et de leurs prédécesseurs. Et donc, il y a comme ça cette naissance d'une grande dynastie, d'une succession de grands empereurs, Qing, qui vont véritablement faire de la Chine un immense empire, extrêmement fragile, puisque ça va être l'une des causes de l'échec de ces empereurs, c'est justement la fragilité de la Chine par rapport aux envahisseurs étrangers au moment de la guerre de l'opium.
C'est un colosse, mais au pied d'argile. Les images qui imprègnent notre imaginaire, et qui sont largement d'ailleurs alimentées, nourries par le nouveau cinéma chinois, et qui nous montrent cette cité interdite tellement extraordinaire, ce protocole inouï, cette richesse quasiment incommensurable, c'est bien la dynastie Qing, c'est bien la dynastie des Mandchous, en fait.
C'est la dynastie des Mandchous. Et d'ailleurs, cette dynastie va, à un moment donné, rivaliser avec Louis XIV, avec la cour de Louis XIV, puisque l'empereur de l'époque, Kangxi, lui, aura des relations épistolaires et il y aura l'envoi de mission de la part de Louis XIV à Pékin et de la part des Mandchous à Versailles et à Paris pour justement un petit peu se renifler mutuellement et voir quels étaient les deux grands empereurs, quel était le plus beau, le plus grand.
Alors, revenons à ce que j'étais en train de raconter, c'est-à-dire cette prise de pouvoir par Tsuhi, pas toute seule d'ailleurs, puisqu'elle a cette impératrice, c'est un pouvoir à 2 femmes. Ça, c'est assez étonnant. Pour tout vous dire, je l'ai découvert en lisant la biographie de Jung Chang. On n'en parle jamais de cet aspect-là.
C'est vrai. C'est une femme très intelligente, Tsuhi, parce qu'elle s'est appuyée, au fond, sur l'épouse légitime, c'est-à-dire l'impératrice, très habilement, en tirant les ficelles. Je pense pour éviter d'avoir quelqu'un qui la contrerait, qui deviendrait une ennemie. Donc elle en fait son allié, et les deux femmes, mais en réalité c'est quand même Tsuhi qui tire les ficelles, effectivement font ce coup d'état et arrivent à prendre le pouvoir et surtout à faire diverger la succession dynastique vers le successeur que souhaite Tsuhi.
Alors oui, ce successeur, il faut le nommer, enfin je l'ai fait tout à l'heure, mais qui doit normalement régner?
Eh ben c'est le fils est tout petit à l'époque, dont elle va s'occuper, qu'elle va prendre en main, qu'elle va former et qu'elle va manipuler, puisque au fond
comme une sorte de marionnette,
D'une manière très intelligente, très subtile, avec l'aide de toute une cour d'eunuques en particulier qui sont autour des enfants impériaux. Et au fond, cette femme qui, je pense, voulait un peu sauver la situation, elle se rendait compte que probablement si elle ne faisait pas ça, tout risquait de s'écrouler. Et donc elle est allée jusqu'au bout de sa démarche.
Et ce règne, le sien, celui de l'impératrice douairière, va durer 47 ans. Je comparais ça tout à l'heure au règne de la reine Victoria. C'est-à-dire que ce sont ces deux femmes qui, chacune à un bout du globe, si je puis dire, règnent sur d'immenses empires. C'est gigantesque, la Chine de l'époque.
Alors, la Chine de l'époque est gigantesque, puisqu'elle a atteint pratiquement les frontières actuelles de la Chine. C'est un pays qui est extrêmement difficile à gouverner. Parce que plus on s'éloigne du pouvoir central et plus évidemment il est difficile de faire appliquer la loi. Il y a en particulier ce qu'on appelle les seigneurs de la guerre, c'est-à-dire des généraux ou bien des grands princes qui en général sont d'origine Han et n'ont pas admis que ça soit les Mandchous qui aient pris le pouvoir, qui ont installé des véritables bastions en territoire chinois. Et évidemment, c'est très difficile pour le pouvoir central mandchou d'arriver à faire régner sa loi et obtenir gain de cause par rapport à toutes ces grandes entités satellites.
Il y a dans la Chine de l'époque une extraordinaire pesanteur, un conservatisme presque atavique contre lequel Tsehi va se dresser littéralement. Et moi, j'ai découvert là encore en lisant cette biographie, ou redécouvert, disons, que si elle a été l'ennemie de la Grande-Bretagne et accessoirement de la France, cette Tsehi, et si elle est très peu aimée en Occident, elle n'en a pas moins été une femme assez moderne en vérité, ouverte à certains progrès.
Et justement, parce que c'était une Mandchoue et que donc elle n'était pas soumise au canon confucéen, au poids des traditions de la femme chinoise, Han, donc elle, effectivement, comme elle venait d'une autre société, qu'elle avait un autre passé, elle a pu effectivement se dire que il fallait absolument faire évoluer la situation, moderniser entre guillemets le pays, en sachant qu'évidemment c'est toujours très difficile. D'ailleurs, c'est ce qui se passe également un peu dans la Chine d'aujourd'hui. C'est-à-dire jusqu'où est-ce qu'on va lâcher la bride à l'attelage, à cet attelage absolument gigantesque, pour quand même continuer à le contrôler. Et donc, elle a très subtilement, on peut le dire, jouer sur une certaine ouverture de la Chine.
Et en faisant confiance à un certain nombre d'Occidentaux, d'ailleurs, il faut le dire. Quand je dis confiance, c'est aller très loin. Il faut dire qu'elle a eu des aventures, même.
C'est ce qu'on dit. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Et c'est pas impossible. Encore que là, bon...
On peut pas l'affirmer, ça.
On peut pas l'affirmer, parce que personne n'était sous le lit. En tout cas, les gens qui l'ont raconté n'y étaient pas. Mais effectivement, c'est en tout cas un personnage beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, qui a joué un rôle central dans l'histoire de la Chine, qui a fait ce qu'elle pouvait pour ouvrir ce pays, qui était face à une situation, on l'a dit, qui était assez dramatique, puisqu'il y avait quand même cette déliquescence du pouvoir, la guerre de l'opium.
Alors justement, on va y venir. Tous ces grands épisodes du règne de Tsehi qui ont laissé des traces en Chine, mais des souvenirs souvent amers en Occident également.
Sakamoto a également composé pour la bande originale du film « Le dernier empereur ». C'est ce qu'on vient d'écouter sur Europe 1. Vous êtes avec Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire revient dans quelques minutes.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Ferrand, cet après-midi dans Au cœur de l'histoire, nous raconte l'histoire de la dernière impératrice de Chine, Ce Hi. Avec lui, pour en parler, José Fraîche, son invité, écrivain, spécialiste de la Chine, auteur du dictionnaire amoureux de la Chine, paru chez Plon.
Alors José Fraîche, justement, vous avez commencé à évoquer un certain nombre de grands épisodes de l'histoire chinoise à cette époque. Il faut peut-être revenir sur ce qu'on a appelé ces espèces de révoltés, là, ces paysans, les Taiping. Qui étaient-ils ?
Alors les Taiping, c'est un mouvement millénariste qui a été fondé par un personnage tout à fait extraordinaire.
Très charismatique, oui.
Extrêmement charismatique, qui se prenait pour une réincarnation du Christ, qui avait fréquenté un pasteur américain évangéliste, donc qui était très pénétré comme ça de religion chrétienne, et qui a mélangé cette composante chrétienne à une composante plus traditionnelle en Chine, qui est celle du millénarisme taoïste, et en particulier des grandes révoltes paysannes au 3e et 4e siècle, la révolte des turbans rouges par exemple.
C'est ce qu'on appelle un cocktail explosif.
Un cocktail explosif où, comme ça, des personnes charismatiques arrivent à soulever les masses paysannes en les faisant rêver à un monde meilleur, à un monde égalitaire. Taiping, ça veut dire la grande paix, le royaume de la grande paix. Et donc, ce personnage a réussi à fédérer, ou en tout cas à enrôler, parce que c'était une véritable secte, des milliers et des milliers, des centaines de milliers de Chinois qui vivaient dans des sortes de phalanstères. À un moment donné, ils ont pris le pouvoir à Nankin, qui était quand même la capitale du sud de la Chine. Ils ont régné sur toute une zone autour de Nankin, et dans ce royaume Taiping, il y avait égalité parfaite entre les hommes et les femmes. Les femmes pouvaient répudier leur mari lorsqu'elles se faisaient battre. Les femmes Taiping n'étaient pas obligées de porter de se faire casser les pieds.
Les femmes aux petits pieds.
Les femmes aux petits pieds, alors que c'était monnaie courante chez les femmes Han. Et donc, ce mouvement millénariste a fait vraiment trembler sur ses bases le pouvoir central.
Et au moment où en tout cas où Ce Hi prend le pouvoir, on se demande bien si
pleine révolte.
Ah oui, presque révolution même.
Presque
en fait,
révolution, hein. Et effectivement, Pékin est à deux doigts d'être submergé par des Taiping, sachant que ce mouvement s'est surtout développé dans le sud de la Chine et que donc au nord, il était un peu moins important que dans des grandes villes comme Nankin, Shanghai ou Hangzhou, par exemple.
Merveilleuse occasion pour le nouvel empereur, si je puis dire, puisqu'après tout, c'était son titre, si je ne m'abuse. Hein, on ne féminise pas de montrer à la fois sa très grande fermeté, mais aussi son intelligence et son esprit de négociation.
Absolument. Donc elle va réussir à contrôler cette révolte des Taiping. Ensuite, il y aura un certain nombre d'offensives. Alors vraiment des offensives d'ailleurs qui seront extrêmement sanglantes, hein, qui coûteront énormément de vies humaines. Et peu à peu, les Taiping seront de plus en plus réduits dans leur place forte. Et enfin, à un moment donné, le mouvement disparaîtra de lui-même.
Alors nous avons tous à l'esprit nos leçons de lycée, lorsqu'on nous apprenait le grand partage de la Chine par les puissances coloniales. Bien entendu, la Grande-Bretagne et la France au premier chef. Mais il faut dire que les Russes n'étaient pas loin derrière, et les Américains non plus. D'ailleurs, on ne se partageait le gâteau. Et ça, évidemment, c'était compter sans Ce Hi. Parce qu'elle n'est pas d'accord, bien entendu.
Elle n'est pas d'accord, elle va tout faire pour éviter ce partage. Elle ne pourra pas l'éviter beaucoup parce que il va y avoir ces fameux traités inégaux, hein, le traité de Nankin, le traité de Tianjin, l'ouverture obligatoire des grands ports de commerce, l'établissement de concessions où la loi chinoise ne s'applique pas, notamment à Shanghai, où il y a une concession française très importante, dont Malraux fera la description dans son livre absolument magnifique, La condition humaine. Et donc, comme ça, la Chine va être un grand colosse à genoux, incapable de se défendre, empêtré comme Gulliver, hein, Gulliver empêtré, avec des armées un peu d'opérette, hein, qui ont des arcs, des flèches et des tromblons. Mais en face, évidemment, il y a des mitrailleuses lourdes, des fusils à répétition. Et donc, les armées occidentales ne font qu'une bouchée des armées chinoises. Et en plus, pour corser le tout, l'empereur chinois, lui, est mal informé des demandes occidentales. On n'ose pas lui dire exactement quelles sont les demandes. Donc il répond à côté, ça irrite encore plus les Occidentaux qui considèrent que cet empereur est une, excusez-moi l'expression, une tête de mule, alors qu'en fait c'est beaucoup plus de l'incompréhension et une incapacité en fait à négocier sur le plan diplomatique qui fait que la Chine va être complètement à genoux et que tout ça se terminera par le sac du palais d'été la mise à sac et l'incendie du palais d'été, c'est-à-dire du Versailles chinois,
terrible,
qui reste encore aujourd'hui gravé dans les mémoires de la Chine et que les Chinois considèrent comme une humiliation suprême.
Nous avons déjà eu l'occasion de parler à ce micro des 55 jours de Pékin. Hein. On pense tout de suite au film, bien entendu, et de la révolte des boxers. Il faut expliquer en deux mots ce que c'est, en fait.
Alors, la révolte des boxers est un mouvement qui se déclenche au tournant du siècle, hein, au début du XXe siècle, dans les années... au début des années 1900. Ce sont des mouvements sectaires, extrêmement hostiles aux étrangers. Donc c'est un peu c'est la suite de la guerre de l'opium, hein, c'est-à-dire la société chinoise n'en peut plus, l'occupation étrangère devient de plus en plus insupportable. Et alors là, vous avez
irrespectueuse à tout niveau.
Et irrespectueuse à tout niveau. Et donc vous avez des gens qui sont d'ailleurs des adeptes du Tai Chi Chuan, hein, donc qui font de la boxe. C'est pour ça qu'on les appelle des boxeurs, qui à un moment donné se révoltent et mettent à sac une partie des délégations étrangères à Pékin. Il y a beaucoup de morts. Et c'est un coup de semonce. Les Occidentaux, qui ne s'attendaient pas à une telle violence, le prennent évidemment en pleine figure. Et Cixi, en sous-main, encourage ce mouvement des boxers en se disant que c'est peut-être un moyen justement de faire reculer les Occidentaux et de les faire céder.
C'est quand même la limite de ce pouvoir qui reste un pouvoir empirique d'une certaine manière, qui juge les choses au jour le jour, peut-être avec une absence, une insuffisance de vision. C'est qu'en fait, elle utilise tantôt tel mouvement, tantôt tel autre, et qu'à chaque fois, quasiment, elle est dépassée quand même par ce qui est en train de se passer.
Et bien sûr, parce que
elle est débordée en fait.
Elle est débordée parce que elle n'est pas à l'origine.
Et voilà.
De tous ces mouvements. Donc elle se met devant pour ne pas être débordée par ces mouvements. Mais à un moment donné, effectivement, ces mouvements lui échappent, d'autant plus qu'elle ne peut pas les contrôler.
Oui. Et non seulement elle ne les contrôle pas, mais ils deviennent très dangereux pour son propre pouvoir. C'est tout le paradoxe. On la voit quand même singulièrement désemparée dans les dernières années de son règne, d'autant plus qu'elle voit que la dynastie elle-même est en grand danger.
Si vous voulez, c'est la fin d'un cycle. Donc, c'est la fin de plusieurs milliers d'années d'empire, avec un pays qui est devenu très, très peuplé sur le plan démographique. Une dynastie qui n'a pas la légitimité d'être chinoise, donc à qui on continue à reprocher d'être manchou. Et puis surtout, qui porte sur elle cet échec terrible de la guerre de l'opium, de la défaite de la Chine, de la mise à genoux de la Chine par rapport à l'Occident. Et au fond, tout ça, et si on y ajoute alors un certain nombre d'idéologies de type plus occidental qui poussent à une république, à une démocratie, qui sont importées par des intellectuels, notamment Sun Yat-sen par exemple, qui sont
grands nationalistes,
qui voyagent, qui vont aux États-Unis, à Paris et ailleurs, qui reviennent et qui voient que le système chinois est un système qui est au fond figé sur lui-même, qui ne correspond plus aux nécessités du temps. Et cette Cixi est un peu sur l'image, elle est sur la proue du Titanic, et le Titanic, de toute façon, il est en train de couler, et il coule. Et elle le sait.
Alors il y aura ce gamin qui lui survivra d'une certaine manière, dans des conditions terribles, on le sait.
Et qui finira comme jardinier, enfin balayeur à la cité interdite.
Du temps de Mao,
parce qu'on n'a pas osé l'éliminer, parce qu'on ne peut pas quand même aller jusqu'à éliminer physiquement un empereur. Mais bon, c'est effectivement un destin terrible que celui du dernier empereur de Chine.
Et de la dernière impératrice douairière, si l'on peut dire, qui aura régné près d'un demi-siècle sur la Chine. C'est une belle biographie que celle de Zhong Shang. On peut en parler, puisque je n'ai pas là. On peut en parler. Elle a sous-titré « La concubine qui fit entrer la Chine dans la modernité ». C'est édité chez Lattès. Quant à vos propres ouvrages, José Fraîche, on ne présente plus le dictionnaire amoureux de la Chine, bien entendu, chez Plomb. Et vous êtes en train là de préparer un ouvrage qui va sortir dans quelques jours, le 5 novembre, chez XO, justement sur Gengis. Scan.
Absolument.
Ben, vous allez venir nous en parler.
Pourquoi pas.
Merci beaucoup. Merci.
avec nous sur Europe 1 dans un instant, dans Au cœur de l'histoire, retour aux origines, avec finalement une question qu'on se pose tous et toutes, d'où vient le repassage, les origines? Et bien la réponse dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Avec cette question pour Franck, une question posée par Anne-Florence via notre site internet europe1.fr, d'où vient le repassage?
Alors ça, c'est une bonne question. Vous savez que le terme repassé, associé au linge, date du règne de Louis XV, on est en 1753. Une tâche à part qui revient en immense majorité aux femmes issues du tiers état, celle de repasseuse, qui souvent s'associe aux blanchisseuses, dont elle terminait le travail en quelque sorte. Alors, on pense que dès la préhistoire, nos ancêtres utilisaient des pierres plates ou des mâchoires d'animaux pour lisser les vêtements, qui étaient très rudimentaires, bien entendu. La plus vieille méthode connue pour repasser le linge viendrait de Chine, justement. Au 1er siècle avant notre ère, on utilisait à l'époque des espèces de casseroles en métal remplies de braise ou de sable très chaud qui permettaient de lisser les tissus. C'est qu'en Chine, on utilise beaucoup de soie, donc il faut faire attention à ne pas trop chauffer la casserole en question. Les pays nordiques utilisèrent vers le 12e siècle une planche à calandrer. Le linge encore humide était enroulé autour de cylindres de bois, puis on lissait tout ça par un mouvement de va-et-vient sur une grande planche. C'est quand même assez extraordinaire. La forme triangulaire du fer n'apparaît en France qu'à la fin du 16e, début du 17e siècle. C'est l'apparition donc de ces outils spécialement conçus pour le repassage. Ce fer que l'on faisait chauffer, autrefois sur des braises, dans le foyer lui-même, bien entendu. Le fer à vapeur, ça viendra beaucoup plus tard. Les méthodes pour chauffer l'outil se sont constamment améliorées jusqu'à ce que, avec l'électricité, la société Calor, en 1917, n'invente le fer moderne, si je puis dire. En attendant, je vous le disais, le fer à vapeur, les moyens ont changé, vous le voyez, mais la méthode qui a été découverte il y a des siècles et même des millénaires, cette méthode pour repasser reste toujours la bonne et n'a pas véritablement changé.